commencer là, juste là.
France Culture.
Non, c'est Khayem qui parle toujours.
Ouais, c'est Khayem qui parle.
Le Book Club.
Bon, la suite est magnifique aussi.
Dans la bibliothèque de Simon Abkarian.
Il parle des fragments de poterie, etc. C'est tellement beau ça. T'es con, c'est très bien.
Mathilde Lachman.
Vous le savez, dans cette émission, nous allons régulièrement nous glisser telles de petites souris dans les bibliothèques de nos invités. Dis-moi où, comment, dans quel endroit, avec qui, pourquoi et ce que tu lis, je te dirai qui tu es. L'homme qui nous fait la visite aujourd'hui est comédien, metteur en scène, auteur de théâtre aussi. Bonjour Simon Abkarian.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et de faire rentrer votre bibliothèque dans notre studio. On va essayer de la faire vivre, ici. Je dois dire que je me souviens avec encore beaucoup d'émotion du jour où je vous ai découvert sur scène, Simon Abkarian. C'était en 1990, il y a quelques années déjà. C'était sur la scène du Théâtre du Soleil. Je revois encore votre visage entièrement maquillé de blanc et ces deux épais traits noirs tracés sous vos yeux. Vous étiez Agamemnon le Terrible dans l'Orestie d'Eschyle, mise en scène par Ariane Mouchkine. Pièce gravée dans nos mémoires et sans doute aussi dans la vôtre. Depuis, on vous a vu dans bien d'autres rôles, sur les planches mis en scène par Irina Brooke, par Cécile Garcia-Fogel, au cinéma aussi, devant la caméra de Robert Guédiguian, de Karim Dridi, d'Atom et Goyan, entre plein d'autres. Et puis aussi mis en scène par vous-même, parfois dans les pièces que vous écrivez et mettez en scène depuis plusieurs années. On va en reparler à travers les textes que vous avez choisis, sur lesquels vous avez choisi qu'on s'arrête aujourd'hui. Mais ici, on commence par un questionnaire qui nous permet d'en savoir un peu plus sur le lecteur que vous êtes, Simon Abkarian. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire ?
Vaguement, c'est très vague. Je me souviens de tenir un crayon et d'une main tremblante d'écrire des lettres A, B, etc. Mais c'est très vague.
Et ça se passait où ça ? C'était
en France.
Quel endroit ?
En France, à la maternelle. École Paul Langevin à Goussainville.
C'est plutôt un souvenir de l'apprentissage de l'écriture alors ?
Oui. Lire, on s'en parlera tout à l'heure, mais ça vient très tard. Très tard.
Il n'y a pas de livres lus dans l'enfance ou qu'on vous aurait lu dans l'enfance ? Vos parents ne vous lisaient pas de livres quand vous étiez petit ?
Non. Non, bah non, justement. C'est ça qui est un petit peu particulier dans ma famille. C'est que moi, j'ai le souvenir de livres de bande dessinée de Walt Disney. Ça, j'ai souvenir de ça, des dessins qu'il y avait dedans aussi, et je ne savais pas ce qu'il fallait privilégier à l'époque, c'était le dessin ou ce qu'il y avait écrit en dessous. Tout ça, c'est venu plus tard, l'image et l'écriture, comment la dissocier et comment trouver l'espace qui les unit, quoi.
Et c'était quel livre de Walt Disney ? Vous vous souvenez des histoires en particulier ?
Je crois que c'était Cendrillon. Il y a des souvenirs comme ça, mais c'est surtout un souvenir de l'objet. Et qui, au fil du temps, s'est cassé, j'ai perdu la couverture, etc. Et quand la guerre a éclaté, j'ai laissé ça là-bas, quoi.
La guerre du Liban.
Ouais.
Parce qu'il faut dire, donc, à l'âge de 8 ou 9 ans, je crois, vous êtes né en France, vous avez passé vos premières années en France, mais à l'âge de 8 ou 9 ans, vos parents retournent en fait, au Liban où ils avaient vécu avant votre naissance.
Oui. Et c'est-à-dire que j'ai pas de souvenir de livres à la maison. Là où on habitait, jusqu'à mes 9 ans. Juste, je me souviens que mon père avait acheté finalement l'encyclopédie, tous les dictionnaires avec des étymologies, je crois, d'ailleurs. Il était très fier de ça. Et une fois acheté tout ça, on a dû quitter en catastrophe notre maison, tout laisser sur place et arriver au Liban. Et au Liban, les livres étaient enfermés dans une armoire en verre, donc à clé. Il y avait 3-4 étagères, il y avait en tout cas ces 30 bouquins, tous en arménien, donc une langue que je ne maîtrisais pas à l'époque, que je maîtrise toujours pas très bien d'ailleurs.
Mais que vous comprenez aujourd'hui.
Très bien. Et mon père passait devant, il me disait parfois, il nommait l'auteur, il disait, lui c'est Simon, c'est un grand auteur, tu as envie de dire, super, mais fermé à clé. Donc c'était quelque chose, le livre c'est un objet sacré à l'époque, où ça tient... voilà, des écritures sacrées et écrire chez nous, enfin chez nous, je vais pas dire que c'est pas comme ça chez les autres, mais dans l'éducation que j'ai eue, c'est un acte sacré. Donc lire aussi. Et pour lire, il faut avoir la compréhension. C'est-à-dire, il faut avoir les outils de devoir déchiffrer un auteur. Mais le reste, tout a été oral. Il y avait des concours de poésie dans les écoles, dans les quartiers. Et il y avait surtout ma grand-mère qui nous racontait des histoires comme des histoires, quoi, comme une conteuse. Donc c'était au début de l'oralité. Je découvre la lecture beaucoup plus tard, moi.
Du coup, une question qu'on pose souvent à nos invités ici, c'est est-ce que il existe une photo d'eux enfants en train de lire ? J'imagine, d'après ce que vous me dites là, que plutôt non.
Non.
Mais est-ce que vous vous souvenez d'images, ou est-ce qu'il existe des photographies de vos parents en train de lire ? Est-ce que vous vous souvenez comme ça de moments dans l'enfance où vous regardiez vos parents lire ?
Non. Non, c'est ça, moi, je viens d'une maison où c'est l'oralité qui est pratiquée, quoi. C'est pas, ou alors c'est des citations d'auteurs et de poètes qui me sont dites de bouche à oreille. Mais je vois pas l'acte de mon père en train de lire ou ma mère en train de lire. Peut-être pas le temps, peut-être occupé à faire d'autres choses, à courir après la vie, quoi. Parce qu'on n'était pas très riche, on était même au seuil du contraire. Mais néanmoins, ils arrivaient à nous payer des études au Liban. Donc moi, j'ai réussi, parce que bon, l'école publique était un petit peu délabrée, quoi, au Liban. Donc il fallait aller à l'école privée pour avoir accès à un tant soit peu de connaissances. Donc moi, j'étais chez les jésuites, mon frère aussi. Et là, ça a commencé une autre partie de ma vie, c'est-à-dire le rapport à la langue, le rapport à la quête de soi, à la compréhension de soi.
Et vous vous souvenez de livres en particulier, alors découverts peut-être chez les jésuites, qui vous auraient comme ça éveillé à l'univers de la lecture.
C'est surtout des auteurs. Je me souviens d'avoir appris des poèmes de Hugo, Musset. Et on est beaucoup axé sur l'orthographe, l'écriture, la rédaction, la dictée. Ça, c'est des piliers. L'enseignement des auteurs, surtout français. C'est-à-dire les Français ne se rendent pas compte à quel point ils sont étudiés dans le reste du monde. Parfois, il faudrait parfois voyager et se rendre compte à quel point la littérature française et la poésie française est admirée et prise en exemple. Donc, Waterloo, mort de plaine, comme une onde qui boue dans une urne trop pleine, ça je l'ai appris chez les jésuites. C'est-à-dire à lire et à penser. La lecture, à la recevoir. Tant et si bien que parfois on disait, mais Hugo, il est sûrement arménien. Parce qu'il y a une fibre, il y a une âme, il y a une révolte, il y a une construction par les mots de cette révolte et qui consiste à dire essayons de faire un monde meilleur.
Est-ce que c'est des souvenirs, vous avez comme ça des souvenirs de plaisir dès ces moments-là de lecture, de découverte à l'école, ou est-ce que, comme c'est le cas parfois, quand on apprend les choses à l'école, c'est plutôt quand même associé à des notions
plaisir.
De contraintes?
Non, déjà. C'est du plaisir. C'est du plaisir, et moi j'adorais les rédactions, c'est-à-dire que j'essayais de mettre en mouvement les choses que j'avais lues. D'essayer de les remettre en mouvement avec d'autres mots, avec beaucoup de maladresse, et ça continue d'ailleurs, la maladresse. Mais d'essayer de... Non, non, c'était un plaisir, c'était jamais subi. Non, pas subi. Après, quand je suis revenu en France, je me suis plongé dans les lectures de le roman de gare, quoi.
Et là, j'avais
du genre San Antonio et SAS, quoi. J'en bouffais un tous les deux jours parce que j'adorais ça. Et puis il y avait une langue dedans qui me plaisait, surtout de San Antonio. J'aimais bien le côté argot, quoi. J'aimais bien cette langue-là qui était issue aussi du monde ouvrier. Donc je me rends plus tard compte qu'elle est en train de disparaître aussi, cette langue, cet argot. C'est pas seulement une question d'époque, le fait de sa disparition, mais aussi le fait d'avoir détruit toute une couche de le monde ouvrier, quoi.
Est-ce que aujourd'hui, dans votre pratique de la lecture, vous avez des moments favoris pour lire, des moments de la journée ? Est-ce que vous êtes un lecteur du matin ? Vous êtes un lecteur du soir ?
Le soir. Plutôt un lecteur du soir. Un lecteur du soir, mais ça dépend ce que je lis. Il y a des livres que je lis, je peux même pas écouter de musique dessus, quoi. Il me faut du calme et du silence. Et puis d'autres livres que j'arrive à lire dans les trains ou dans les cafés, parce que je sais que je le lis parce que j'en ai besoin pour mon travail. Et puis d'autres que je lis sans savoir ce qui me pousse à le faire. Et ça, c'est plus vertigineux et plus, on va dire, délicieux.
Est-ce qu'il y a des livres que vous n'avez pas encore lus, mais avec lesquels vous avez l'impression d'avoir un rendez-vous comme ça, dont vous savez qu'ils vous attendent et qu'un jour, vous allez vous y affronter ?
Proust. aussi cela, bah, les gens ils vont bondir dans leur siège. Je sais qu'il faut que je le fasse et j'ai jamais lu Proust.
Vous n'êtes pas le seul à nous faire cette confession. Donc, à ce micro.
Donc je sais que en fait si vous voulez, j'ai tellement de retard en tout. J'ai commencé vraiment à lire à 19 ans. Et j'étais au Théâtre du Soleil quand une fille m'a offert, qui s'appelle Clémentine Yelnik, elle m'a offert un livre qui est Narcisse et Goldmund.
Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce livre ?
Ce livre a déclenché en moi, tout d'un coup, dire « Mais qu'est-ce que tu foutais jusque-là, quoi ? Qu'est-ce que... Mais la vie faisait que je pouvais pas faire autrement que le temps si précieux de la lecture, je n'arrivais pas à l'avoir, je n'arrivais pas à me l'inventer. Et d'où mon émotion, parce que ça m'émeut beaucoup. Parce que, pour moi, à partir du moment où j'ai commencé à lire, j'ai commencé à me tenir.
C'est-à-dire que la lecture, ça a été quelque chose dont vous avez l'impression que, d'une certaine manière, ça vous a aidé à vous asseoir dans la vie, à vous accrocher à quelque chose de
tangible. À répondre au monde, à comprendre les mots, l'agencement des mots et la construction d'une pensée tellement profonde avec tellement de couches successives qui font que, à un moment donné, ça a développé des endroits de mon cerveau, de mon esprit, de mon cœur. Qui, j'espère, ces deux choses sont liées, ces trois choses sont liées, à comprendre que tout d'un coup, des poètes et des poétesses œuvraient dans cette solitude qui est la leur pour le bien de l'humain. Je trouve ça tellement émouvant, quoi, tellement, tellement important. Et je comprenais plus tard pourquoi les livres étaient enfermés chez moi.
Et dans ce livre-là, vous sauriez nous dire... Qu'est-ce qui a eu cet effet-là ? Est-ce que c'est purement dans la langue ? Est-ce que c'est aussi dans le récit ? Qui, à ce moment-là, à 19 ans, vous attrape vraiment dans ce livre ?
C'est une quête. Ça raconte la quête, la rencontre de deux êtres et l'apprivoisement. Enfin, comme ça, comment on apprivoise la bestialité par la beauté, quoi. Comment tout cela finit à sculpter une chose qui va devenir en mouvement perpétuel, pourtant figé. Et c'est ça qui m'a. J'avais rencontré un gars qui était venu au Théâtre du Soleil habiter là-bas parce qu'il avait plus de, enfin, il avait plus de maison. Et ce type m'a dit, il était juif. Il m'a dit, j'ai appris l'allemand pour pouvoir lire Hesse dans sa langue originelle. Moi, je suis pas allé jusque là. Après, parler de traduction, c'est encore un autre sujet, mais. Je pense que les traducteurs et les traductrices essayent d'être les messagers sincères et légitimes et honnêtes de l'auteur ou de l'autrice qu'ils essayent de c'est des messagers, quoi. Donc un traducteur ne passe pas son temps à vouloir déformer l'écriture ou l'œuvre de quelqu'un. Donc je l'ai lu en français et ça m'a bouleversé, quoi. Et après j'oublie des choses parce que pour revenir à la question d'avant. Je pense que j'ai lu, la première fois que j'ai lu quelque chose, c'était 20 milieux sous les mers, de Jules Verne.
Ah, et c'était...
Ça me revient, vous voyez, je vois le livre vert avec la... Donc...
Ça, c'était vers quel âge ?
Ça devait être vers... 13, 14 ans.
En France, du coup, après votre retour en France, encore au Liban.
Moi, je reviens au Liban à 16 ans, et parce qu'on avait...
Vous revenez du Liban, en France, à 16 ans.
Je reviens à 16 ans, de 9 à 16 ans. Et après, par le théâtre, je découvre, dans toute sa splendeur, la force des poètes et des poétesses qui... Quand je dis poétesses, parce que le premier spectacle que j'ai fait au Théâtre du Soleil était écrit par Hélène Cixous, qui c'était... l'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge. C'est en 1985.
Et on va reparler d'Hélène Cixous. Si je reste justement sur ces années dont vous nous parliez, ce moment à 19 ans où comme ça la littérature s'ouvre à vous, avec le recul des années, est-ce qu'il y a un livre que vous aimeriez conseiller au jeune homme que vous étiez à 19-20 ans de lire ? Si vous pouviez toquer à sa porte et lui dire... Tiens, toi, mon gars.
À 19 ans, ouais. C'est ce que j'ai fait à mon fils. Je lui ai conseillé de lire Hermann Hesse. Et il l'a lu. Il a lu ce qui suivait, surtout Le Loup des Steppes, je crois. J'arrive pas à avoir le titre exact en tête de ce livre. Je crois que c'est Le Loup des Steppes. Bref. Et on en a parlé après. Et ensuite, j'ai revu mon fils. Ça va encore m'émouvoir, mais Il avait un livre plié dans la poche arrière de son jean et puis il m'a dit « Écoute papa, il faut que je te lise un truc ». Et puis il m'a lu la confession du prêtre dans Notre-Dame de Hugo, et où il confesse son amour à Esmeralda. Il m'a dit « Regarde comme c'est écrit ». Moi je pleurais de joie, quoi. Parce que, un, je savais qu'il était sauvé. Et il est important pour moi aujourd'hui, par le théâtre, de faire découvrir et de donner l'envie aux gens de non pas de s'instruire, non pas d'avoir des armes pour répondre aux méchants qui oppresseraient le monde, c'est pas ça. Mais surtout pour s'ouvrir les perspectives d'un monde à l'intérieur qu'ils ne soupçonnent peut-être pas.
Est-ce que dans les parcours comme ça de familles qui voyagent de pays en pays, dans le cas de votre famille, le Liban, la France, avec des allers-retours comme ça, souvent on laisse derrière soi des livres, en particulier quand il y a des guerres et quand il y a des exils un peu précipités comme ça. Est-ce que dans le cas de votre famille, il y a des livres qui ont voyagé avec vous, ou est-ce qu'à chaque fois vous avez dû tout laisser derrière? Est-ce qu'il y aurait un livre qui vous aurait accompagné, que vos parents auraient mis dans leur sac?
Ma mère a emmené... Nous, on a un livre qu'on chérit. C'est un livre qui date du Xe siècle, écrit par un prêtre, poète, avec son frère, qui s'appelle Grégoire de Narek, Grégoire de Narekatsi. Et c'est un livre qu'on met sous l'oreiller des enfants, pour les protéger. Et peut-être que l'écriture, à travers l'oreiller, montrait jusque dans l'esprit de l'enfant qui dort dessus. Ce livre-là, oui, il nous a suivis partout.
Morceau interprété par le groupe Howlin' Jaws, c'était la musique sur laquelle dansait le chœur de danseuses qui initiait au reste à la danse dans Electre des Bas-Fonds, la pièce que vous avez écrite et mise en scène, Simon Abkarian, créée à la cartoucherie de Vincennes il y a 4 ans, qui a tourné. Depuis, est-ce qu'il vous arrive de lire en musique? Je crois que vous avez mentionné tout à l'heure que certains livres, vous aviez besoin d'une concentration absolue, mais est-ce que parfois quand même vous mettez de la musique en fond comme ça derrière une lecture?
Ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive. Et c'est toujours la même chose. C'est Kremski au piano de Gurdjieff Hartman, et quand j'écris aussi, je l'écoute. Ça me concentre sur les mots qui sont en train d'apparaître dans mes yeux, quoi. Et puis il y a des choses que je dois lire à haute voix, d'autres à voix basse. Il y a des textes que je peux pas lire autrement qu'à haute voix.
Comme quoi, par exemple? Quel type de texte? Évidemment le théâtre, ou pas forcément?
Pas forcément. L'Iliade, les chants de l'Iliade et de l'Odyssée, je pense qu'il faut les lire à haute voix.
Le rythme?
Oui, et puis dire les choses provoque autre chose, ça fait bouger autre chose que, autrement en tout cas, je voudrais pas réduire la lecture à sa simplicité, parce que c'est pas simple de lire. Il faut bien respirer pour lire, et puis se dire que la personne qui a écrit ça à travailler. Donc ça demande une espèce d'approche très respectueuse quant à la lecture. Si on ne comprend pas un mot, il faut s'arrêter, il faut aller au dictionnaire et recommencer à lire la phrase dès le début, voire le chapitre dès le début. Mais si on saute un mot, ou alors il faut le souligner, marquer la page et le soir revenir à toutes les marque-pages et voir les mots qui nous auraient échappé, quoi.
Vous parlez des dictionnaires, vous avez eu la gentillesse pour préparer cette émission de nous envoyer deux photos de la grande bibliothèque qui se trouve, j'imagine, dans le salon chez vous, Simon Abkarian. Il y a un petit coin où il y a, il me semble, justement, les dictionnaires. J'ai trouvé comme ça de loin, hein, c'est des photos que j'ai pas pu voir en très grand format, mais que les choses étaient très organisées de façon générale. Comment ils sont rangés, les livres chez vous? Comment ils occupent l'espace? Est-ce qu'ils sont dans toutes les pièces? Est-ce qu'ils sont dans un coin précis? Est-ce que c'est un classement par ordre alphabétique d'auteur? Ou bien par époque de votre vie? Comment ça marche, le rangement des livres chez vous?
Ça marche les deux. Il y a les deux. Il s'est bien rangé. Et puis, autour de moi, ça dégouline un peu autour de ma table, au-dessus, parce que j'ai une étagère au-dessus de mon lit. En fait, on est encerclé de lits. De livres.
Joli lapsus. Ouais.
J'ai une étagère consacrée au théâtre. J'ai une étagère consacrée à l'histoire du théâtre. J'ai une étagère consacrée à la peinture, à la bande dessinée, au dictionnaire, à la photo. Aux livres un peu ésotériques, voilà des choses qui me servent, qui sont des outils précieux pour moi dans mon travail, quoi.
J'ai vu sur la photo qu'il y avait des très jolis objets placés en haut de la grande bibliothèque du salon, des chandeliers, un revolver, une petite maquette d'église aussi, je crois. Ouais. C'est quoi ces objets? Vous voulez bien nous
la maquette d'église? C'est une maquette que j'ai achetée qui est en tuf, qui est faite par des artisans à la sortie de la cathédrale d'Etchmiadzin en Arménie. Donc je l'ai achetée et je trouve, parce que les volumes sont beaux, la forme est belle. Pas seulement par le fait de la foi ou quoi que ce soit, parce que la foi, elle ne se pratique pas forcément dans une église, mais à l'intérieur de soi aussi, devant un arbre aussi, ou devant une rivière qui coule aussi, ou devant la beauté d'un homme ou d'une femme aussi, ou devant un orchestre qui joue aussi. Bref. La beauté est partout pour peu qu'on veuille la célébrer et avoir foi en elle. La cathédrale s'élève, la cathédrale ou l'église de style romain ou quoi que, ou la mosquée ou la synagogue s'érige d'elle-même en soi, quoi.
Et le revolver?
C'est pas un revolver, une antiquité de l'époque napoléonienne qui appartenait à la famille de mon épouse, qui est Lorraine. Et donc, quand son papa est décédé et que sa mère a déménagé, j'ai récupéré ça. Et parce que son frère n'en voulait pas, et moi, elle n'en voulait pas non plus, je l'ai pris quand même.
On va plonger dans les livres que vous avez élus entre tous, sur lesquels vous aviez envie qu'on s'arrête aujourd'hui, Simon Abkarian. Le premier d'entre eux, c'est un livre d'Hélène Cixous, on en parlait tout à l'heure. Il s'appelle « Le rire de la méduse et autres ironies », livre qui rassemble deux textes initialement publiés en 1975 et réédités en 2010 aux éditions Galilée. Texte important dans l'histoire de la pensée féministe en France et dans le monde, hein, texte qui ont eu une grande renommée dans le monde entier. Je vous propose qu'on écoute Hélène Cixous dans une archive de 2010, justement, le moment de l'apparition, de la reparution du livre en France.
La méduse, c'est une figure qui est très importante, que j'ai essayé de réhabiliter, puisque c'est une figure, je rappelle très, très rapidement l'histoire, c'est une des trois gorgones, et qui était considérée dans l'Antiquité comme redoutable aux hommes. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas la regarder l'homme ne pouvait pas la regarder sans être saisie et pétrifiée. Bon. Pétrifiée, pourquoi? Parce que la méduse a un regard, elle a un regard perçant. Donc, déjà, c'est très important. La méduse vous voit. La méduse vous voit. Bon. Elle est mortelle. La méduse, c'est une des trois gorgones, elle est la seule à être mortelle. Et elle va être massacrée pour faire un plaisir à tout un aréopage de rois et autres, dont le principal est Persée, qui est le modèle même, comme Thésée, hein, comme le Thésée d'Ariane, etc., qui est le modèle même du misogyne classique de l'Antiquité. Moi, je pense que la méduse est une image remarquable de ce que les hommes n'analysent pas lorsqu'ils sont misogynes. C'est exactement la réaction inanalysée d'une phobie qui se manifeste lorsque on se trouve en présence d'une femme qui a de la force et qui donc vous voit tel que vous êtes.
Hélène Cixous au micro de Marc Voinchet, c'était dans Les Matins sur France Culture en 2010. Comment est-ce que vous avez découvert ce texte, Simon Abkarian, quand ?
C'est Hélène qui me l'a offert. Elle me l'a offert, c'était avant, juste avant le Covid. Parce que je m'intéresse à la question, non pas féministe, mais à la question de comment je peux corriger moi-même mes comportements et faire ma propre analyse d'éducation masculine, on va dire. Donc, et puis c'est quelqu'un que j'ai fréquenté longtemps, parce qu'on a, quand on montait les Atrides, elle était là, on a eu de longues discussions autour d'Hector et d'Achille, qui ont préféré, pourquoi.
Les Atrides, mis en scène par Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil, vous avez fait partie de la troupe du Soleil pendant un petit peu moins de 10 ans, hein.
C'était ouais,
dans les années,
ans.
Voilà, 8 ans, dans les années 80 et 90. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez joué aussi dans plusieurs de textes d'Hélène Cixous, qui est une, on peut dire, une compagne de route du théâtre.
Oui. Pour moi, c'est une révélation, c'est une rencontre importante, tout comme la rencontre avec Ariane a été importante, Mnouchkine. Ce sont des femmes que j'ai rencontrées par hasard, mais pas que. C'est-à-dire que peut-être que consciemment et inconsciemment, mais je pense aussi consciemment surtout que je souhaitais ces rencontres-là, que je souhaitais cette éducation, je dirais même cette rééducation-là, ce point de vue-là que je subodorais de souffrance que je ne connaissais pas ou que je ne voulais pas voir, comme le dit si bien Hélène. Elle parle bien, Hélène. Hein.
Et pourquoi rééducation ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Quand je parle de rééducation, c'est-à-dire que nous, on nous a appris, les garçons, que nous étions les êtres les plus précieux, les plus importants, les verticaux, qui avions seul droit à avoir accès au divin, que le temporel était réservé à des tâches, enfin, aux femmes, etc., etc. Et de déjouer cette éducation-là, on a besoin de confirmation poétique, de confirmation intellectuelle, de confirmation, je dirais, ritualisée. Parce que le théâtre, comme on le pratique au Théâtre du Soleil, c'est un rituel. Et puis d'entendre aussi cette colère-là qui est là et qu'on ne peut pas nier, quoi. Et je participerai à cette colère si je m'entêtais à ne pas voir la puissance de la personne qui est en face de moi, qui se trouve être une femme à ce moment-là. Donc c'est vrai que quand je tombe sur Hélène, c'est pas quelqu'un qui me pousse la bibliothèque sur la tête en disant toi t'as pas lu tout ça, moi je l'ai fait. Non, au contraire, c'est quelqu'un qui me prend la main, qui m'invite et qui m'ouvre la première page de la première discussion qu'on va avoir ensemble. Et ça, c'est merveilleux.
Vous nous lisez un passage de ce texte.
Allez.
C'est un passage où elle parle de son enfance.
Oui. J'ai appris à lire, à écrire, à hurler, à vomir en Algérie. Je sais qu'aujourd'hui, par expérience, qu'on ne peut pas l'imaginer ce qu'était l'Algérie française. Il faut l'avoir vécu, subi. Avoir vu les Français, au sommet de l'aveuglement impérialiste, se conduire sur une terre habitée par des humains comme si elle était peuplée de non-êtres, d'esclaves nés. De ce premier spectacle, j'ai tout appris. J'ai vu comment le monde blanc, français entre parenthèses, supérieur, plutocratique, civilisé, instituait sa puissance à partir du refoulement de populations soudain devenues invisibles, comme le sont les prolétaires, les travailleurs immigrés, les minorités qui n'ont pas la bonne couleur, les femmes. Invisibles en tant qu'humains, mais bien sûr perçus en tant qu'instruments, sales, bêtes, paresseux, sournois, etc. Grâce à la magie dialectique anéantissante, j'ai vu que les beaux grands pays avançaient, s'érigeaient en expulsant l'étrange, en l'excluant, mais pas trop loin, en l'asservissant. Geste banal de l'histoire, il faut qu'il y ait deux races, celle des maîtres, celle des esclaves.
Très beau texte dans lequel Hélène Cixous fait comme ça une espèce de lien, une analyse du parallélisme ou des points de rencontre entre deux formes de violence, deux formes de domination, la domination coloniale et puis la domination masculine. Pourquoi vous avez choisi ce passage-là précisément, Simon Abkarian, dans ce livre-là ?
Parce que c'est important pour moi de voir que... Parce que c'est vrai qu'on parle de ce livre comme étant un livre, étant comme une des bibles du féminisme contemporain. Mais être féministe, on est quand les, en tout cas, ce qui concerne Hélène, ce n'est pas être exempt de voir la mécanique du monde telle qu'il est construit, une mécanique qui oppresse, qui écrase, qui ignore, qui s'appelle l'impérialisme ou le capitalisme, qui souvent vont de pair. Donc voilà, c'est de voir d'où elle s'extrait. Parce que c'est important de savoir d'où on s'extrait, où on est et comment on s'en extrait pour mieux voir l'endroit d'où on s'est quelque part, qu'on a été arraché, qu'on a été déraciné, où on s'est... Voilà. Et ça me parle à moi. C'est-à-dire que quand Hélène parle d'elle, elle parle aussi quelque part de moi, tout garçon que je suis, quoi. Et c'est ça qui est beau. Et c'est vrai que c'est un livre que je continue à avoir auprès de moi pour aller rechercher des non pas des confirmations mais des fréquences que j'ai parfois tendance à oublier.
Hélène Cixous, on l'a pas dit, hein, elle est née à Oran, elle a grandi ouais. Là-bas. Qu'est-ce que ça change de lire un auteur, une autrice en l'occurrence que l'on connaît, quelqu'un dont on connaît la voix, par exemple, la voix très réelle, très concrète. Est-ce que vous avez l'impression que ça change la manière dont on reçoit les textes?
Oui et non. Oui, parce que c'est un privilège que d'avoir pris dans ses bras une telle personne et qui vous a pris dans les siens. Mais je pense que ce qu'elle écrit est tellement plus haut que tout.
Deuxième étape de ce parcours, Simon Abkarian. Une fois n'est pas coutume dans ces visites que l'on fait dans les bibliothèques de nos invités, eh bien c'est un texte de votre plume que vous avez choisi. C'est le privilège des auteurs que de pouvoir se lire eux-mêmes. C'est un texte que vous avez écrit pour le théâtre, un texte extrait d'une pièce qui s'appelle Hélène après la chute, pièce qui se jouera tout bientôt à partir de la semaine prochaine, du 7 au 25 novembre au Théâtre de l'Athénée et puis qui sera en tournée ensuite au Théâtre de la Criée à Marseille en décembre notamment. Pièce qui est en quelque sorte la suite ou le deuxième volet, disons, d'une pièce qui s'appelait Ménélas Rebetiko Rhapsody, montée il y a plusieurs années. Et dans ces deux opus, vous revisitez l'histoire du déclenchement de la guerre de Troie. Hein, c'est le sujet de l'Iliade d'Homère. Comment est née l'envie chez vous de vous emparer de cette grande histoire-là? Est-ce que c'est lié à l'expérience à laquelle on a fait allusion plusieurs fois déjà depuis le début de cet entretien, à savoir le fait d'avoir joué sous la direction d'Ariane Mouchkine dans Iphigénie à Aulis d'Euripide et dans l'Orestie d'Eschyle?
Oui, c'est une suite illogique, mais une suite néanmoins... Comment dire, importante pour moi, parce que je voulais continuer à explorer tous ces personnages-là. Et parce que si vous voulez, Hélène et Ménélas, Ménélas est un être déchu, c'est un être dont on dit du mal, dont on dit que c'est de sa faute, de sa faiblesse, de pas su avoir tenir sa femme.
Oui, alors faut peut-être rappeler, hein, pour ceux qui se souviendraient pas de l'intrigue, hein, Ménélas, c'est le roi auquel on ravit Hélène. Hein. Hélène est enlevée par Paris, et c'est ça qui déclenche la guerre de Troie.
Et si vous voulez, moi, dans ma version, parce que c'est une version, c'est un point de vue, et c'est ça qui est beau dans les mythes, c'est qu'on peut agencer et transformer l'histoire, on va dire, officielle, enfin officielle, c'est un poète quand même qui l'écrit, vers autre chose. Dans l'histoire que je raconte, c'est Hélène qui prend la décision de partir, parce qu'elle vit avec quelqu'un qui n'est plus là, qui est absent. Ce qui est important pour moi dans les Grecs, c'est que des mythes m'obligent à une certaine rigueur de langue et de lyrisme presque, et qui n'empêche pas le trivial, mais ça me conduit vers une langue qui soit en dehors du quotidien, en dehors du réel, ou enfin pas du réel mais du réalisme, je dirais même du prosaïque. Moi je crois au poétique, au théâtre, c'est j'y crois de toutes mes forces. Je crois que le prosaïque, bon bref, on va pas ouvrir un débat là-dessus, mais Et ça me permet aussi de mieux analyser, qu'encore une fois, revenir vers moi en tant que l'homme que je suis, de voir qu'est-ce qui me reste à travailler en moi, pas pour plaire à l'un ou à l'autre, parce que ce serait la mode de le faire, etc. C'est, j'essaie de me parfaire, de savoir qui je suis, et pour ça, quand je rentre dans les extrêmes, parce que les extrêmes de la tragédie donne cours à une extrême sincérité dans les propos que s'échangent les personnages. Il n'y a pas de psychologie, il n'y a que de la pulsion qui est du verbe et du corps et du sentiment, quoi.
Le passage que vous avez eu envie de nous lire, donc extrait de cette pièce « Hélène après la chute », c'est un monologue d'Hélène. Mmh. Elle parle à Ménélas, donc ils viennent de se retrouver, et Ménélas lui fait raconter la dernière nuit
qu'elle a passé avec Paris.
Avec Paris. Comment elle vous est venue l'idée de cette scène-là ?
C'est une longue histoire. Non, parce que si vous voulez, elle lui demande de lui raconter la mort de Paris, parce que dans ma version, c'est Ménélas qui aurait tué Paris. Donc il dit, pourquoi te faire souffrir ? Il dit, t'occupes plus de ma souffrance, ça fait longtemps que c'est fait, mais je veux savoir. Donc il lui raconte la mort de Paris. Et de la mort, on passe à l'amour, quoi, de l'amour charnel. Bon, c'était même pas voulu, c'est venu comme ça. Et c'est vrai que je me demande encore, parfois, quand je prends quelqu'un dans mes bras ou que je lève un verre avec, je me demande parfois si c'est la dernière fois que je le fais. Donc, ne sachant pas que c'était la dernière fois, elle le pressent quand même. Et ça, je trouve ça assez beau.
On lit ?
On lit. Cette nuit-là, il resta longtemps en moi. Je poussais des cris que je ne me connaissais pas. Dans ma gorge, les aigus et les graves se livraient à un combat sans merci, à bout de souffle et de plaisir, ne sachant plus quoi crier, comme si nous savions notre fin imminente, nous nous mordions l'un l'autre. Je le poussais du pied et lui offrais ma croupe. Ma nuque, mes épaules, la chute de mes reins tout entière, je frémissais comme une génisse que l'on vient de marquer. Il me tient par les cheveux, me chevauche, me frappe, me caresse jusqu'au sang, m'embrasse à pleines dents. Vers lui, je tourne mon visage, ma langue se régale de son museau. Je cherche son regard, cambre ma nuque à me rompre le cou. Sur nos visages défilent les masques de tous les démons qu'engendre le plaisir. Masque démoniaque qu'aucun artiste ne peut saisir, à moins de les sculpter dans le feu de la foudre. Mes yeux révulsés se perdent dans les siens. La chair humide claque contre la chair humide, comme le fouet sur le dos de l'attelage. J'ai mal en silence, mes lèvres saignent, mais derrière le mort, de cette ultime chevauchée, à l'insu de la douleur, un sourire se dessine.
Merci, Simon Abkarian. Quand vous écrivez une scène comme ça, vous avez des textes autour de vous pour nourrir votre écriture. Vous avez votre Homère à portée de main, ou au contraire, vous essayez de faire table rase.
Quand j'écris, j'ai plus personne autour de moi, j'ai tout le monde en moi. C'est-à-dire que j'ai lu, j'ai pris des notes. Mais ça, c'est un texte que j'ai écrit presque d'une traite. Mais ça, c'est une histoire que je ne vais pas révéler, mais qui remonte à plusieurs années.
Dommage, on aurait envie d'en savoir plus. Mais bon, si vous ne voulez pas la révéler, on va pas insister. Troisième texte que vous avez eu envie qu'on évoque, Simon Abkarian, c'est un texte de Pascal Quignard, Critique du jugement, un texte qui date de 2015. Je vous propose, avant qu'on évoque ce texte précis-là, qu'on écoute Pascal Quignard dans une archive qui parlait justement du rapport à la lecture en général.
La méditation passe par les livres. Je ne parle pas de la pensée, de la philosophie, de la religion, de la psychanalyse. Non, je parle vraiment méditer. Méditer sa vie, méditer ses jours. Ce n'était pas forcément yogique, ce n'est pas forcément des pratiques forcément corporelles. Ou alors, il faut avouer que la lecture est une formidable pratique corporelle qui en plus ne demande pas beaucoup d'efforts.
Une pratique corporelle, la lecture, pour Pascal Quignard, ça vous parle, cette idée-là, Simon Abkarian ?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
C'est lié à ce qu'on disait un peu tout à l'heure de la lecture à voix haute. Hein. La voix, c'est aussi quelque chose qui passe par le corps.
Par le ventre.
Absolument. Alors, Critique du jugement, donc ce livre paru chez Galilée en 2015, c'est pareil. Hein, je vais vous demander comment vous l'avez rencontré, ce livre-là. Est-ce que c'est le premier livre de Quignard que vous lisez ? Pas du tout. Quignard, est-ce que c'est un auteur qui vous accompagne depuis longtemps ? Comment il arrive comme ça sous vos yeux, ce livre-là ?
C'est le premier livre que j'ai lu, c'est Le sexe et l'effroi. Et ça m'a parlé parce que pour plein de raisons. D'abord parce que c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, prend le temps de me parler de ce que je crois savoir et que je ne sais pas. De ce que je subodore, mais que je veux ignorer. Et c'est vrai qu'il a un rapport aux mots, à l'étymologie, et même qu'il en invente parfois, j'ai l'impression. Et je trouve ça tellement merveilleux. Les gens, parfois, le prendraient peut-être pour un fou, sachant qu'Eschyle, lui-même, a inventé des mots qui n'existaient pas dans la langue grecque de l'époque. Je suis pas un exégète de ça, mais je sais que Pierre Judet Lacombe ne me contredira pas là-dessus. Quand il parle, le titre m'a parlé déjà. Je savais pas qu'on poussait. Voilà, c'est quelqu'un qui arrive à pousser une idée tellement loin, tellement à remonter dans le temps et nous dire que le temps n'a entamé en rien le désir de tuer l'autre sous prétexte qu'il faisait telle ou telle chose.
Critique du jugement, c'est une allusion à Kant, bien sûr, mais il y a cette idée dans ce livre. C'est un peu comme si Pascal Quignard nous racontait comment il avait renoncé à la position de celui qui juge.
Qui juge, parce que le juger, c'est le verdict, on le connaît, c'est la mort. C'est la mort. Quel que soit, vous regardez aujourd'hui les petites étoiles qui jalonnent les réseaux sociaux d'un restaurant, tout type, le type qui me dit, tiens, regarde, il y a 3 étoiles, j'ai dit, alors t'as mangé là-bas? Non. Alors, comment tu peux faire confiance à des gens qui seraient allés là-bas, qui auraient mis des petites étoiles? Moi, ça me parle pas, les étoiles. Il faut que j'aille manger là-bas, il faut que je rencontre la personne. Voilà, et les exigences de ces gens-là sont peut-être pas les miennes, parce que peut-être qu'il va y avoir le serveur ou la serveuse qui va avoir un moment d'impatience, et puis le service va être terrible. Donc non, et c'est vrai que c'est cette manie qui est devenue celle de notre siècle, de dire ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est 7 sur 10, ça c'est 9 sur 20, ça sur... Une œuvre mérite mieux que ça.
C'est un livre qui est écrit sous forme de fragments, plus ou moins longs. Vous me disiez, avant qu'on commence cet entretien, que c'est un livre auquel vous reveniez beaucoup, que vous lisiez.
Tous ces livres.
De livres qui sont sur votre table de chevet.
Ouais, j'ai une case à part pour lui, comme pour Hélène d'ailleurs. C'est des auteurs vers qui je retourne régulièrement voir. Non mais vraiment, ça me nourrit vraiment beaucoup, comme la poésie me nourrit vraiment, comme les chansons orientales me nourrissent beaucoup même. Puis il y a des phrases qui sont incroyables dans des chants, dans les chants arméniens, dans les chants arabes. Il y a un chant d'Oum Kalsoum qui dit « J'ai peur de cligner des yeux, de peur de te perdre trop longtemps ». C'est beau, non?
C'est très beau. On lit le passage que vous avez souhaité nous lire, extrait donc de ce livre de Pascal Quignard, Critique du jugement.
Depuis l'origine des sociétés humaines, toute société se déclare en crise. La religion est en crise, la famille est en crise, la protection des dieux est en crise, l'éducation est en crise, la librairie est en crise. Chaque année répète son refrain. Qui est son Te Deum? Tout est conflit à l'intérieur du groupe et tout est guerre à l'extérieur des frontières. Tout est inclusion et exclusion. Isoler les étrangers, isoler les impies, isoler les fous, isoler les nomades dans les champs à la banlieue des bourgs, isoler les mendiants sur le parvis des églises, isoler les fumeurs sur les trottoirs, isoler les femmes dans les maisons, isoler les enfants dans les écoles, isoler les déprimés dans les maisons psychiatriques, isoler les vieux dans les maisons de retraite, isoler les morts dans les cimetières, diviser, régner. C'est ce que Foucault appelait la chiennerie des juges et des procureurs. Comment fonctionne au juste cette chiennerie? Faire ordre par la peur et faire hiérarchie par la mort. Tel est en effet le fonctionnement hiérarchique dans les meutes que forment les loups. Si le plus haut point du fonctionnement social propre à la communauté humaine est la guerre enfiévrante en temps de guerre, la guerre entravée en temps de paix, alors le clivage entre les vaincus et les conquérants est exemplaire. C'est le clivage entre ceux qui doivent apprendre la nouvelle langue et ceux qui la parlent avec une telle aisance qu'ils ont oublié qu'ils l'ont acquise dans l'effort. C'est le clivage entre ceux qui se taisent et ceux qui font des discours en sorte de lancer des ordres, entre ceux qui sont inspectés, déplacés, déportés, asservis, emprisonnés et ceux qui sont libres, losers et winners. Ceux qui sont out, ceux qui sont in, à l'intérieur du cercle de leur mythe, dans l'oubli spontané de leur langue. Pour moi, c'est des mini tremblements de terre quand je lis ça. parce que on semble avoir une conviction qui était forte en vous, voilà, sur l'injustice humaine, sur ces différents mécanismes qui font que de les opprimer que. Et tout d'un coup, des auteurs comme ça, et comme on lisait tout à l'heure le texte d'Hélène, ça se rejoint quelque part. Il y a cette convergence des esprits vers cette catastrophe annoncée et qu'on pourrait peut-être endiguer par la connaissance déjà de soi.
C'est des textes qui ont une dimension à la fois historique et politique très forte. C'est un texte, ce texte-là de Pascal Quignard, magnifique, qui fait écho très fortement au présent qu'on traverse, mais je pense que voilà, ça marche.
Il fera toujours écho, exactement. Malheureusement.
Ouais.
Il fera toujours écho, malheureusement. C'est-à-dire qu'on... Au lieu de, quand nous sommes de choisir un camp, lui, il dit réfléchissons à qui organise cette division, quoi.
Est-ce que, de façon générale, vos lectures, vous avez besoin qu'elles soient comme ça une manière d'éclairer votre esprit sur le moment qu'on traverse ?
Constamment, parce que, si vous voulez... Vous savez, il y a une histoire en arménien, c'est une fable, c'est pour une goutte de miel. Et les gens ne savent plus pourquoi ils sont en guerre, parce qu'il y a un berger qui vient demander du miel à quelqu'un de l'autre village qui se trouvait dans un autre pays. Une goutte de miel tombe au sol, une mouche va sur la goutte de miel, le chat saute sur sur la mouche, le chien du berger saute sur le chat, tu tues mon chien, je te tue, tu tues les bergers de notre village, je te tue. Et on ne remonte pas à l'origine de cette querelle qu'on pourrait résoudre.
Il y a beaucoup des textes que vous avez choisi de nous lire aujourd'hui, Simon Abkarian, comme ça les livres étapes qui forment le chemin de notre parcours du jour, qui sont des textes, soit des textes directement théoriques, soit des textes très nourris de pensées théoriques, de philosophie notamment, c'est le cas d'Hélène Csikszentmihalyi et de Pascal Quignard. Est-ce que vous-même, vous êtes lecteur de textes philosophiques ou théoriques autant que de romans, de poésie, de théâtre?
Oui. Marc Aurèle, par exemple.
Bah voilà, ça nous fait une belle transition avec le livre suivant.
Le livre dont je vous ai parlé, le livre d'élémentation, Grégoire de Narek, sous forme de prière, il enseigne. Et Gandhi, les évangiles, la poésie. Les troubadours des arméniens qui m'ont beaucoup appris aussi. C'est très poétique et ça vous ramène à une humanité qui ne peut pas vivre autrement que par la justice, soit c'est l'harmonie, pas la justice, justement l'harmonie entre les êtres. Et c'est vrai qu'on nous pousse vers t'es avec moi ou t'es contre moi, t'es ci, t'es cela. Et parfois le silence, moi j'en ai besoin, ne serait-ce que pour laisser retomber la poussière du fracas du monde, essayer d'articuler deux, trois mots sur les choses qui viennent de se passer. Parce que je peux pas traiter ce qui vient de se passer en Israël et ce qui est en train de se passer en Palestine comme de l'actualité. C'est de l'histoire qui est en train de se passer. C'est l'histoire qui est en train de s'inscrire. Et l'histoire, on la traite pas avec des tweets. Voilà.
Autre texte qui nous aide comme ça à prendre un peu de hauteur par rapport à l'actualité, comme on dit, c'est un texte de Marc Aurèle, vous le disiez, « Pensez pour moi-même », que vous avez choisi de nous lire dans la traduction qui est celle, si je ne dis pas de bêtises, de Catherine Dallimier, texte paru dans l'édition Garnier Flammarion. C'est un texte dont Catherine Dallimier dit dans cette édition en introduction qu'il s'agit d'un olmi, un objet littéraire mal identifié. Il s'agit en fait de notes écrites en grec par l'empereur romain Marc Aurèle, qui a vécu au IIe siècle de notre ère, vécu et régné. Et c'est des notes qu'il rédige, qu'il rédigeait a priori pour lui-même, pour ce qu'on en sait, ce qu'on en a compris, sans idée à l'origine qu'elles pourraient être rendues publiques, et qu'il s'adresse aussi à lui-même. Je vous propose, Simon Abkarian, que vous nous lisiez d'abord le passage que vous avez choisi, et puis on parle du livre en général et de ce texte en particulier ensuite.
On ne peut t'admirer pour ton acuité d'esprit, soit, mais tu as bien d'autres qualités naturelles que tu ne saurais nier. Fais donc voir celles qui dépendent entièrement de toi. Ta sincérité, ta gravité, ton endurance, ta résistance au plaisir. Tu ne protestes pas contre ton sort. Tu as peu de besoins. Tu es aimable, libre, frugal. Tu ne babilles pas. Tu fais montre de grandeur. Ne vois-tu pas toutes les qualités que tu pourrais déjà montrer sans invoquer l'incapacité naturelle ou l'inaptitude alors que tu te contentes de rester en deçà? Serais-tu contraint de grogner, de lésiner, de flatter, de prendre prétexte de ton pauvre corps, de chercher à plaire, d'être étourdi, de subir toutes ces agitations de l'âme par manque de disposition naturelle? Grand Dieu, non. Depuis longtemps, tu aurais pu être affranchi de tout cela. Il ne reste qu'à t'accuser d'être un peu lent et d'avoir du mal à suivre un raisonnement. Mais sur ce point aussi, on peut s'exercer sans négliger sa bêtise, ni s'y complaire. J'adore.
Alors pourquoi ? Quel rapport d'abord vous avez peut-être avec le livre dans son ensemble ? Pensez pour ça, comment vous l'avez découvert ? Et puis pourquoi vous avez choisi ce texte en particulier qui vous fait rire, Simon Abkarian ?
Ça me fait rire parce que la première phrase déjà me tue. On ne peut t'admirer pour ton acuité d'esprit, soit. C'est-à-dire que t'es con, t'es bête. C'est un fait, mais tu as d'autres qualités que tu peux, qui peuvent te constituer et qui peuvent faire de toi un être. Et c'est pas parce qu'on est bête qu'on peut se complaire dedans, comme c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on peut se complaire dans le vice, etc., etc.
Donc c'est Marc Aurèle qui se parle à lui-même. Hein, faut bien le redire pour comprendre le sens. Oui, oui. On ne peut t'admirer pour ton acuité d'esprit, soit. C'est quelqu'un qui se dit à soi-même. Bon, on peut pas dire que je suis particulièrement vif d'esprit. C'est un fait. Qu'est-ce que je vais faire partant de là ?
Mais je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Parfois, il m'arrive aussi de me parler à moi-même, de dire « Mais pourquoi tu ne t'es pas tu ? Pourquoi t'as parlé à ce moment-là ? Pourquoi ?» Parce qu'on n'est pas encore maître de soi, ni de ses émotions, ni de ses pulsions qu'on peut avoir, de ses colères ou de sa vanité ou de son ego, quoi. Donc tout ça, c'est du boulot. Et c'est vrai que ça détruit comme ça cette chose qui consiste à dire je suis bête, donc pardonnez-moi d'être aussi vil et veule. Ben non, t'es bête, mais t'as d'autres qualités.
Et comment vous l'avez découvert, ce texte ? Comment il arrive entre vos mains ? Parce que c'est un texte qu'on étudie parfois en classe de terminale, en philosophie. Hein. C'est un espèce de monument de la pensée stoïcienne, un classique de la pensée stoïcienne. Vous, c'est au lycée qu'il arrive entre vos mains ou c'est bien, bien plus tard ?
Ça, c'est un gars de mon quartier qui me l'a offert. C'est Slim qui me l'a offert, que je salue d'ailleurs s'il m'entend, mais... Je l'avais vu, c'est-à-dire que mon frère, qui est un grand lecteur, m'en avait parlé, il l'avait lu, etc. Mais c'est toujours beau de recevoir un cadeau qui est un livre. Et comme c'est offert de quelqu'un à quelqu'un, comme j'estime ce quelqu'un, je me dis, bon, je vais essayer aussi, c'est un livre aussi qui est là, toujours pas loin de moi. Quand je pars écrire, moi je suis quelqu'un qui a besoin de l'objet, j'ai besoin de tenir dans mes mains les choses. Quand je pars écrire à la campagne, j'emmène deux valises de bouquins, quoi.
Dernier auteur qu'on va évoquer malheureusement plus rapidement parce que le temps a filé, Simon Abkarian, c'est l'écrivain franco-libanais Amine Malouf, désormais secrétaire perpétuel de l'Académie française. C'est un roman qui s'appelle Samarcande, qui a été publié pour la première fois en 1988. Qu'est-ce qu'il raconte, ce roman ? Moi, je ne l'ai pas lu. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi ça parle ?
Ça parle d'un paradis perdu, ça parle... de ce poète Omar Khayyam qui va, au début du roman, rencontrer Hassan Saba, qui va devenir le chef des assassins à Alamout. Et ils vont se quitter là, au début du roman, ils vont se retrouver plus tard, à la fin du roman.
Et Omar Khayyam, qui est un poète et un savant qui a vraiment vécu.
Hein,
ouais. Il a vécu au XIe siècle,
1041,
je crois. Notre... Ouais. Il est né en 1041 et mort au XIIe siècle.
Donc ça raconte tout ce monde qui, dans cet Orient, où les gens manigancent, s'entretuent, conspirent, trahissent. Il trace sa route toute droite avec la poésie et l'amour du vin et l'amour de la beauté. C'est des mille et une nuits, si vous voulez, un petit peu comme des chroniques de quelqu'un qui aurait vécu ces mille et une nuits. Et je trouve ça tellement merveilleux, quoi, parce qu'on y voit toutes les langues, on y voit les Kurdes, on y voit les Iraniens, les Arabes, les Turcs, les Assyriens, c'est très beau, c'est un voyage magnifique.
Vous-même, vous avez vécu entre plusieurs langues, quand vous étiez petit, on parlait plusieurs langues, vous entendiez plusieurs langues dans votre famille.
Le français, l'arménien, l'arabe, le turc, l'anglais, le grec parfois, et après par ricochet l'iranien, parce que j'ai rencontré des... Mais l'iranien, je ne le parle pas, je ne le parle pas. Pas que je parle le turc, mais je me débrouille.
Dans les textes que vous avez choisis aujourd'hui, il y a beaucoup de textes français. Bon, Marc Aurèle est traduit du grec, mais beaucoup de textes écrits en français. Est-ce que dans vos lectures, vous avez aussi une attention aux textes étrangers ? Est-ce que vous lisez dans des langues étrangères directement aussi ?
Dans des langues étrangères ? En anglais, mais à l'arrache, quoi. Mon frère lit bien en anglais. Mais, Abkar, mais non, moi, je, en plus, c'est une langue que j'aime, le français. C'est une langue dans laquelle je ne mets pas une. Enfin, mon cerveau s'éclaire le mieux, c'est le français. J'adore cette langue, en fait. Et ces sonorités-là, je les aime. Et c'est comme, on va dire que je suis français, quoi, à la base. C'est français et. Arménien, enfin c'est comme une pièce qui roule sur sa tranche, qui est condamnée à rouler sans tomber sur une face ou l'autre.
On lit un passage de Samarcande d'Amin Malouf.
Oui, et là c'est Omar Khayyam qui parle. Il m'est arrivé de me promener dans les environs de Samarcande. J'y ai vu des ruines avec des inscriptions que nul ne sait plus déchiffrer. Et je me suis demandé, que reste-t-il de la ville qui s'élevait ici jadis ? Ne parlons pas des hommes, ce sont les plus éphémères des créatures. Mais que reste-t-il de leur civilisation ? Quel royaume a subsisté ? Quelle science ? Quelle loi ? Quelle vérité ? Rien. J'ai eu beau fouiller dans ces ruines, je n'ai pu découvrir qu'un visage gravé sur un tesson de poterie et un fragment de peinture sur un mur. Voilà ce que seront mes misérables poèmes dans 1000 ans. Des tessons, des fragments, des débris d'un monde à jamais enterré. Ce qui reste d'une cité... C'est le regard détaché qu'aura posé sur elle un poète à moitié ivre.
C'est pas mal comme mot de la fin.
C'est splendide.
Ce qui reste d'une cité, c'est le regard détaché qu'aura posé sur elle un poète à moitié ivre. Merci beaucoup Simon Abkaréan.
Merci.
On va se quitter au son d'une musique extraite de Ménélas, Rebetiko Rhapsody, ce spectacle écrit et mis en scène par vous il y a quelques années, un spectacle musical dont on parlait tout à l'heure. On écoute Grigoris Vassilas au bouzouki et au chant et Kostas Tsekouras à la guitare.
Μερακλής ο άνθρωπος που νήμα δεν το λέγει κι αν τραγουδά ψεύτη ντουνιά μέσα η καρδιά του κλαίγει. Φέρτε πρέζα να πρέζαρω και χασίσι να φουμάρω. Με χιλόλο το ελενάκι, με το μουσμούλι γοβάκι, βρε του μήλο, δε μου ξύγεται, σκάει απ' τα γέλια κι ολοκουνιέται. Φέρτε πρέζα να πρεζάρω και χασίσι να φουμάρω.
Toutes les références de lecture, de musique, d'archives et de spectacles évoquées avec Simon Abkaryan seront à retrouver sur la page internet des bibliothèques du Book Club que vous pouvez écouter via le site de France Culture ou l'application Radio France. Aujourd'hui à la prise de son, c'était Alexandre Dang, à la réalisation Sam Bakiast. Un grand merci au reste de l'équipe du Book Club, Oriane Delacroix, Marianne Chassor, Valentin Rémy, Jeanne Aléos, Léa Weissgruss, Marie Richeux et Alexandre Alaibegovitch.